Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chers auditeurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission. Nous nous retrouverons chaque semaine pour découvrir ensemble les nouvelles sorties littéraires. Je vous propose de commencer immédiatement, puisque la rentrée littéraire ne nous a pas attendus pour débuter.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Pour notre toute première chronique, j'ai décidé de vous emmener dans l'univers sucré et doux de la japonaise Ito Ogawa, qui cette année encore nous régale d'un nouveau roman dont le nom évocateur n'est pas la moindre des gourmandises, Le goûter du lion. Paru en France le 25 août aux éditions Piquier et traduit par la lumineuse Déborah Pierre-Wanatabi, ce sixième roman d'Ito Ogawa nous propose le voyage solaire de la fin d'une vie, celle de la pourtant jeune Shizuku Umino, décidée à profiter des dernières semaines que sa maladie lui alloue dans la très belle maison du lion. Et c'est ce lieu, cette hôtellerie tranquille, dévouée aux existences sur le déclin, aux jours comptés et alités, qui a fait pour moi toute la magie de cet ouvrage. Les romans d'Ito Ogawa sont toujours d'abord des lieux, celui du restaurant de l'amour retrouvé, de la papeterie Tsubaki, des établissements dans lesquels des services en apparence anodins, comme le commerce ou la restauration, deviennent des gestes thérapeutiques à part entière. On choisit un papier à lettres comme un ami pour éponger notre encre, et on goûte son dessert comme on se plonge dans un paysage lointain. Les personnages de cette autrice vont et viennent dans ces temples des invisibles et grands plaisirs de la vie, parfois clientes, souvent tenancières, et par le truchement de ces petits riens qui sont tout, guérissent tranquillement de toutes les contusions que la vie nous inflige. Notre Shizuku Umino n'y fait pas exception. Notre voyage commence avec elle, lorsqu'elle emménage dans la maison du lion, résignée à y passer les derniers de ses jours et décidée à en tirer le plus de douceur possible. Et à sa surprise, pour notre plus grand plaisir, ce gîte de l'île au citron se révèle aussi merveilleux que nos mouroirs de retraite se sont avérés tragiques ces dernières années. Comme une revanche face à une société qui trop souvent ne sait plus que faire des mourants et qui regarde ailleurs, tandis qu'anciens et moins anciens approchent seuls de leur dernier voyage, le roman d'Ito Ogawa nous apporte une grande consolation, en faisant le récit de semaines tranquilles, avant-goût peut-être d'un paradis similaire, rythmé par le ressac de la mer intérieure de Seto, par le bruit des feuilles de citronnier, et bien évidemment par les immuables et mystérieux goûters du lion, tenus tous les dimanches par la maison, et dont je ne vous dévoilerai pas la tradition qui mérite à elle seule de plonger dans cet ouvrage. N'hésitez pas et offrez-vous cette lente introspection au pays de la douceur, de l'existence et des madeleines de Proust. Interrogé d'ailleurs sur la place de la gourmandise et de la cuisine dans son écriture par le Journal du Japon en juin 2018, Ito Ogawa disait déjà « Cuisiner, c'est pour moi effectivement donner un peu de moi-même à celui qui mangera ce que j'ai préparé. Quand j'ai des invités, je prépare des onigiri. Ils disparaissent toujours très vite. Ces onigiri, faits à la main en serrant le riz entre mes paumes, transmettent sans doute toute ma chaleur. Ils sont un peu de moi-même. Les pâtisseries sont encore différentes de la nourriture en général. Elles ne sont pas indispensables à la vie, mais les sucreries nous aident à surmonter la tristesse et les moments difficiles. Je crois qu'elles recèlent bien des possibilités littéraires, bien des histoires. » Comme Ito Ogawa, on ne peut ignorer tout ce que la littérature a de culinaire. Les auteurs ont du goût, les lecteurs ont un palais, et l'analogie court jusqu'au Reader's Digest, où l'on prémâche du texte au service des consommateurs plus pressés. Mais les romans d'Ito Ogawa font plus que cela. Ils sont autant romans que recettes de cuisine, autant faits de papier que de ganache et de sucre. Offrez-vous ce livre comme une semaine de vacances, une promenade en bord de mer ou une excursion en salon de thé. C'est le cadeau qui vous attend entre ces pages. Comme toutes les rentrées littéraires, celle de cette année nous offre un kaléidoscope d'ouvrages dont la diversité s'exprime dans notre sélection du jour, puisque nous vous proposons de passer de l'hôtel utopique de la Maison du Lion d'Ito Ogawa à la dystopique Magnapole, cité de l'ultra-capitalisme, qui se fait le théâtre du nouveau roman de Laurent Godet, Chien 51, paru chez Actes Sud le 17 août. Nous quittons le Japon pour la France, le rêve pour le cauchemar et l'utopie pour la dystopie. Accompagnez-nous dans la plongée aux enfers de Chien 51.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
L'on ne présente plus Laurent Godet, dramaturge et romancier aux nombreuses récompenses, mais il faut néanmoins souligner que son nouveau livre détonne dans sa bibliographie, puisqu'il nous régale cette année d'un polar d'anticipation, un genre auquel il ne s'était jusqu'ici pas prêté. Et voilà que désormais s'offre à nous le roman Chien 51, comme une suite imaginée à notre histoire européenne, dystopie avec laquelle Laurent Godet nous plonge dans un possible futur post-moderne, où les nations sont vendues au plus offrant par Goldtex, consortium qui règle le sort des pays en faillite. Comme des millions d'autres ressortissants grecs, le policier Zams Parak a fui son pays à l'annonce du rachat de la Grèce, et il erre désormais dans la zone 3 de Magnapole, simple chien au service d'une institution délaissée. Il apparaît bientôt à une enquêtrice de la zone 2, un maître chien, affecté à une série d'effroyables meurtres. Il ne faut pas s'y tromper. Laurent Godet, en bon disciple de Philippe K. Dick, ne propose pas tant une plongée dans un imaginaire futuriste qu'un écho, une extrapolation de travers déjà en germe dans nos sociétés à plusieurs vitesses et aux injustices criantes. Les compatriotes de Zems Parak ne sont même plus des citoyens de seconde zone, mais seulement de tierce zone, et l'enquête de notre clébard jette une lumière éprouvante sur une population misérable et pétrie de rêves préfabriqués et de divertissements choisis pour elle. Pas de révolution possible dans ce monde où l'horizon des rêves lui-même est modelé par la Goldtex. Et de cette révolte impossible, notre personnage principal sait quelque chose. Avant la faillite de son pays, Zems Parak s'était battu, avait aimé, espéré. Mais c'est désormais sa nostalgie elle-même qui est instrumentalisée dans la ville où tout s'achète et tout se vend. L'industrie du rêve addictif, au moyen de la technologie Okios, lui permet de se replonger sans limite dans cette Grèce perdue. Pourquoi se battre encore lorsque ce que l'on chérit est déjà détruit? Et comment s'arracher aux souvenirs lorsque l'on peut s'y replonger toutes les nuits? C'est par le prisme de ces questions existentielles que Zems Parak, mais également Laurent Godet, retrouvent le chemin du présent, du sens des batailles et du goût pour l'existence. Avec Chien 51, Laurent Godet signe à nouveau un roman fort, dans lequel sa plume s'allie admirablement au polar d'anticipation. Nous ne pouvons que saluer son incursion dans ces genres nouveaux pour lui et vous recommander de tenter vous aussi cette troublante expérience.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
De temps à autre, nous avons décidé de vous offrir une lecture, quelques pages pour vous délasser et découvrir un titre avec nous. Pour aujourd'hui, nous avons choisi le roman « Revenir à toi » de Léonore de Recondo, qui vient de sortir dans la collection du livre de poche, récit de retrouvailles entre une mère comme absente à elle-même et sa fille, comédienne de théâtre, attachée au rôle d'Antigone, et qui va, comme ce personnage, tout abandonner pour se consacrer à ce reliquat de famille trop longtemps perdu. Voici donc les premières pages du roman « Revenir à toi ». Magdalena est allongée sur le lit, recouvert d'une feuille de papier jetable. Elle observe le médecin et remarque son front trop lisse, les ridules autour des lèvres comblées, gonflées, publicité pour les injections qu'elle propose. Et Magdalena dit, sans l'avoir prémédité, « J'ai ce grain de beauté dans le cou, ça me dérange pour me coiffer, et j'ai peur que le peigne ne l'arrache. Et pour les perruques aussi, le maquillage, il faut toujours que je pense à le protéger. » La dermatologue regarde, touche de son doigt froid. Son index analyse matière et densité. Elle s'excuse justement du froid et ajoute « Ce n'est rien, je vais vous l'enlever tout de suite. » Elle imbibe un coton de lotion anesthésiante, le pose quelques instants sur le grain de beauté, et d'un coup de scalpel tranche net le bout de peau brunâtre. Un peu de sang, c'est fini. La dermatologue, contente d'elle, sourit. C'est allé vite pour Magdalena, elle n'a rien senti. Elle demande, fini quoi? Le grain de beauté. Et le médecin lui colle un pansement à la place. Dans la rue, Magdalena se demande pourquoi elle a accepté que cette femme qu'elle ne connaît pas lui coupe ce petit bout de peau. Son téléphone sonne, sur l'écran apparaît la photo d'Adèle, son agent. Oui, la voix lui dit quelque chose qu'elle ne comprend pas. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes, Adèle ? Et Adèle répète plus lentement. Magda, on a retrouvé ta mère. Magdalena raccroche, range le téléphone. Cet appel n'a pas existé. Rien à entendre, rien à comprendre, mais il provoque une fissure dans ses pensées. Fissure aussi fine que l'incision dans son cou. Elle la sent, elle a peur du flot de souvenirs qui pourrait surgir. Un suintement qui finirait par tout emporter. Emporter le château construit depuis l'enfance. Goutte après goutte, l'édifice s'effondrerait sur lui-même, noyant sa volonté farouche, arrachant les tuteurs et laissant les mortiers dissous. La houle est profonde. Combien d'années pour s'interroger sur l'absence, s'y soumettre, s'y conformer ? Raison faite, elle ne veut pas compter. Compter, c'est commencer de donner chair au souvenir, c'est croire que ce coup de fil a eu lieu. Un grain de beauté en moins, elle en était là, juste là, pas plus loin. C'était les premières pages de « Revenir à toi » de Léonore de Recondo aux éditions du Livre de Poche. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine.